Onde.
Martin Page est auteur et co-créateur avec Colline Pierret des éditions Monstrographe. Ensemble, il et elle publient tous leurs ouvrages impubliables ou refusés par des autres maisons d'édition. C'est une collection riche de livres n'ayant pas trouvé leur place chez les éditoristes dits classiques. Et pour ouvrir la discussion, Martin a accepté de nous lire un passage de son essai « Au-delà de la pénétration ».
Ce livre devait être publié chez un éditeur intéressé, en tout cas en avril 2018, qui a ensuite changé d'avis. J'en ai bien l'impression, en tout cas, car il a cessé de répondre à mes emails. J'avais déjà vécu un long parcours de publication pour mon autre petit essai, La charité des pauvres à l'égard des riches, fut finalement publié par la maison d'édition marseillaise Les Éclairs. Un long parcours aussi pour mon manière d'écriture et survie et La nuit des voies de monde. Colline, ma compagne, avait connu aussi une suite de refus pour son Éloge de femme heureuse, finalement publié dans cette même collection chez Monstrographe. Donc nous n'arrivons toujours pas à trouver d'éditeur pour notre livre sur la paternité. Alors je n'ai pas insisté. Je n'ai pas envoyé ce texte à d'autres éditeurs. Je n'avais pas le cœur à prendre quelques nouvelles portes dans la figure. C'est un des aspects du métier d'écrivain qui nous rapproche des surfeurs. Il y a des chutes et des vagues qui nous tombent dessus, des requins qui rôdent. Ça évoque aussi des râteaux amoureux et sociaux qui nous rappellent que souvent on n'est pas désirable. Mais du rejet, on fait de sacrées choses, je crois, comme de notre non-désirabilité. Bon, c'est épuisant et c'est un tantinet désespérant, mais c'est une expérience humaine commune par nos propres artistes. Le monde résiste, il coince et grogne. Si on le chatouille, si on l'emmerde, tout ça est très logique. On ne va pas jouer les étonnés. Pourquoi serait-on bien accueilli? J'ai quand même beaucoup de chance, il y a des femmes et des hommes qui me soutiennent. Pas beaucoup, une poignée, c'est une sacrée poignée. Alors les batailles font partie de l'histoire. Je savais que le thème effrayerait, donc là je parle de au-delà de la pénétration. Je savais que le thème effrayerait, mais justement avec Colline, nous avions créé notre petite maison pour ça, pour les textes refusés, trop bizarres, trop particuliers, trop effrayants, pas dans l'air du temps. Monstrographe est notre petite cabane dans un arbre. D'ailleurs, nous aurions pu appeler comme ça notre maison d'édition, la cabane dans un arbre. C'est notre geste punk, faire ce qu'on veut avec nos moyens limités, avec le système de l'édition. Faire des choses à la marge, en cachette, tout en continuant à bosser avec nos chères éditrices et éditeurs des maisons traditionnelles. Profiter des deux mondes en somme. Pour être honnête, pour moi, c'est aussi une manière bizarre, compliquée et pas forcément efficace de tenter de me faire aimer. Et de dire, hey, je suis là, j'ai besoin de réassurance narcissique et de câlin. Un projet part toujours de blessures et de manques. Censure le temps que je reviens. Ouais, juste un point sur, pour parler de Monstrographe. Colline, c'est la cofondatrice, la coéditrice de Monstrographe. Elle fait sans doute plus pour notre maison d'édition que moi. C'est par exemple elle, la chef de fabrication. Je le précise car nous avons eu des retours malheureux. Certains considéraient Monstrographe, c'était uniquement moi, et invisibilisaient Colline. La violence sexiste est courante dans un milieu soi-disant éduqué et cultivé. Par exemple, Colline écrit un livre qui s'appelle L'éloge de femme rose, et il était moins remarqué que des livres que moi j'ai pu écrire. Monstrographe a le statut d'association, mais non, servait à imprimer d'autres livres. Et à payer des dessinateurs, et là, il y a une graphiste qui va bosser pour nous pour faire une mise en page. Nous ne gagnons rien avec ces livres, d'autant plus que nous avons fait des choix chers, il y a des rabats, et surtout les livres sont cousus, garantie de qualité et durabilité. La plupart des maisons d'édition ont renoncé aux cousus au profit de la seule colle qui finira par casser le livre. La pire de qualité de fabrication de livres en France est vraiment une honte quand on voit ce qui se fait ailleurs, tout comme l'absence de travail graphique. Nos tirages sont réduits entre 100 et 300 exemplaires. Mais tous les livres ont été retirés plusieurs fois. Nous imprimons en Italie, mais nous avons trouvé un imprimeur de qualité plus locale. Nous emballons les livres pas les moyens d'acheter nos livres, et ben on les propose au format de PDF à 2 euros. Voilà, on en offre aussi pas mal. Nous ne faisons pas de service de presse. Alors, liste de présentation. Juste peut-être, je peux ajouter un truc sur le standard. Donc, au départ, c'est venu parce qu'on avait envie de publier des trucs qui, on s'avère, ne sont pas des éditeurs classiques. Au départ, c'est un de mes livres écrit et dessiné à la main qui s'appelle Tu vas rater ta vie, personne ne t'aimera jamais. Voilà. Et voilà, c'est très punk, on pourrait dire. Et peu à peu, on allait faire des livres classiques, comme Plaire et pénétration. Alors celui-là, on a arrêté devant parce que on a été dépassé par le succès et tout ça, donc ça nous tend à aller à la poste, tout ça, on a arrêté devant. C'est un éditeur traditionnel qui ressort dans le genre qui s'appelle Nouvelle Attila. Donc là, c'est un des pires qualités. Nous, on est fait pour vendre des livres à 200 exemplaires, en fait. Là, on était à plus de 500. Celui-là, on était vraiment dépassé. Le truc, c'est de sortir des livres qui sont impubliables et invendables. Alors, parfois, on se trompe, apparemment. Et dans ce cas-là, l'idée, c'est qu'on va faire appel à un éditeur professionnel, parce qu'on n'a pas de diffuseur, on n'a rien. Et on ne veut pas passer notre temps, en fait, en truc administratif ou aller à la poste et à faire des colis. Nous, on veut passer, on est écrivain d'abord et on est aussi musicien. Donc, on veut passer. Le plus important, c'est la création et faire même des livres. C'est pas de s'occuper de toute l'infrastructure derrière. On sera jamais des vrais éditeurs où on refuse ça. Ensuite, c'est important pour nous de faire. Là, on est en train de. Donc, il y a le livre de Queen qui s'appelle L'élevage de Fermerose, qui est une vision féministe de Fermerose, une défense de Fermerose d'un point de vue féministe. Je vous conseille. Vous pouvez aller sur Monstrographe, vous pouvez aller sur Internet, vous pouvez commander en ligne. Et là, on a trois livres qui sont en cours. On se publiait surtout nous au départ, mais là, on a envie de publier d'autres gens, avec toujours ce critère d'impubliabilité. Et là, il y a une copine un poète qui a écrit, qui en a commandé un livre sur un éloge lubrifiant. Qui s'appelle Poétique, je me suis fait dégager, j'ai plus le titre en tête, Poétique, Poétique du lubrifiant, c'est pas exactement ça, mais c'est une Poétique du lubrifiant. Donc c'est, y a des poèmes, il y a des nouvelles, une partie un peu essai, voilà, il y a un genre de défense des lubrifiants dans les rapports sexuels. Voilà, donc ça aussi c'était un livre que tous les autres éditeurs, je pense à part nous, ont refusé. Donc c'est vraiment cette idée-là. On a commandé aussi un texte à une copine, alors qui a signé sous un pseudo, dont j'ai oublié le nom, je ne peux pas le dire ici. Et c'est un texte sur la misandrie, une défense de la misandrie. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, la misandrie, c'est la haine des hommes. Voilà. Ça me semble un concept intéressant à mettre sur la place publique. Alors les gens vont un peu s'évanouir, enfin une partie des gens vont s'évanouir, vont au moins lancer les sourcils, et c'est normal, mais je pense que c'est vraiment un texte qui apporte des choses qui ne sont pas dites. Et un dernier texte sur écrit par une fille qui s'appelle Julia Carnino, qui publie par ailleurs, sur son rapport à la nourriture. Bon, là, ce sera un peu moins trash, on va dire. Mais... Et donc, on a aussi ce truc de, comme on est écrivain et artiste, hein, et qu'on trouve que les questions de. Plein de questions par beaucoup d'art, d'artistes, machin, et tout ça, mais je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas abordées, en fait. Que c'est un milieu, en fait, où la liberté d'expression, de parole, n'est pas du tout la règle. Et donc, on a fait un premier volume qui s'appelle « Les artistes ont-ils vraiment besoin de manger ?». On a demandé à une trentaine de copains, copines, écrivains, dessinateurs, dessinatrices, photographes, traducteurs, musiciens, peintres, enfin voilà, toutes sortes d'artistes et d'écrivains, d'écrivaines et d'autrices. Que des gens qui vivaient plus ou moins de leur art. En fait, on ne voulait pas des gens super connus et qui n'avaient pas de problème d'argent. On ne voulait pas non plus des gens qui étaient obligés de prendre un boulot à plein temps et d'avoir une pratique artistique sur leur maigre temps libre. En fait, on ne voulait pas être ces gens-là, de ces gens qui existent quand même assez nombreux, qui s'en sortent plus ou moins suivant les années, suivant les jours, suivant les mois et tout ça, qui ont une vie faite un peu de bricolage. Voilà, comment ils s'en sortaient avec cette histoire de facture, d'argent, de loyer à payer et de création. Et donc voilà, donc c'est un livre qui parle de comment, ouais, le truc c'est manqué, comment les artistes et auteurs se débrouillent aujourd'hui pour s'en sortir. Et là on prépare la suite, c'est pas les artistes habitent quelque part, sur la question aussi de qu'est-ce qui fait qu'on habite telle ville, qu'est-ce qui fait qu'on s'installe dans une grande ville, qu'on est obligé de quitter une grande ville pour créer une histoire de place, de gentrification, tout ça, là, c'est comme ça intéressant. Il y aura, c'est un peu comme Martin, hein, c'est une série, donc, et le suivant, ces artistes ont-ils un corps? Et le suivant après, ce sera les artistes, sont-ils des parents? Voilà, toutes les questions qui nous semblent vachement intéressantes, qui sont pas abordées pour nous, que ce soit par les institutions culturelles. D'ailleurs, ce livre sur le rapport de la création et de l'argent, je me suis dit, tiens, ça va intéresser les institutions culturelles, ça, mais en fait, pas trop. Non, on voit que c'est tabou, en fait, que ça fait chier beaucoup de gens de parler d'argent et d'art. Ça, c'est, parce que derrière, des histoires de classe sociale, enfin, c'est des choses qui sont très, très dérangeantes. Il y a beaucoup de clichés, il y a un rapport, une image un peu de la pureté artistique qui devrait pas du tout se préoccuper d'argent, mais ça, c'est un rêve de bourgeois. Donc voilà, on essaie de faire des livres qui espérons, ne vont pas se vendre. Et s'ils se vendent, on fera appel à un autre éditeur professionnel pour prendre notre suite, en fait. Voilà, qui lui fera son boulot.
Ah,
vous avez des questions ?
On a des questions, ouais.
Mais,
et c'était pas si grave à prendre.
Oui, bien sûr.
Ouais. Bonjour. Je vais t'interroger. Et tu disais par vos institutions que tu ne soucies pas du tout de l'artiste et tout ça. Je suis totalement d'accord avec toi. Mais malgré tout, là, moi, maintenant, je suis. Du coup, je me suis inscrit à la Ligue des auteurs associés.
La Ligue des auteurs professionnels.
Ah ouais.
Oui, moi aussi, ouais, j'y suis inscrit. C'est...
Et ils essaient de se bouger de...
Ah, mais c'est pas ce que j'appelle une institution pour moi, mais je suis d'accord avec toi. Ah, ouais, bien sûr. Ah, bien sûr, ils sont super. Ils sont géniaux. Ouais. Non, il y a plein de gens qui essaient de se bouger. Il y a des auteurs professionnels qui font partie des gens les plus offensifs sur ces questions de parlons d'argent, parlons de fric et d'art. Ouais, je suis d'accord avec toi, ils sont super.
Après, je sais pas, comme je suis auteur de BD, nous, entre nous, on entend parler. Et...
Le milieu de la BD, c'est un milieu qui est beaucoup plus. On parle beaucoup plus facilement de ces choses-là qu'en littérature générale, qui est un milieu plus bourgeois aussi, et plus conformiste. Mais parmi ceux qui luttent le plus, c'est je dirais la littérature jeunesse et la bande dessinée, c'est ceux qui sont les plus offensifs sur ces questions-là. Et tant mieux. Alors, je ne pense pas que ce soit le type d'écriture. On n'est pas du tout. Enfin, en fait, ce n'est pas la littérature expérimentale. En fait, donc, l'idée, c'est. Donc, ce n'est pas du tout une question de style, si tu veux. Non, c'est vraiment les thèmes qui posent un problème. On l'a vu avec le livre de Colin sur l'éloge des femmes heureuses. On a vu un genre de réaction un peu de méfiance, parce que dans l'imaginaire de pas mal de gens, les femmes heureuses, c'est un truc un peu cucu, un peu niais, tout ça, donc on voit du mépris quand on parle de certains livres. Alors mon livre sur la pénétration, bah, ça a été c'était le chaos, hein, quand même. Oui, non, c'est clairement les thèmes. Le livre sur la mise en vie aussi, ça, les gens sont plutôt surpris, mais que les gens soient surpris, tant mieux. On fait des livres pour ça, pour surprendre les gens, et aussi pour parler aux alliés, pour parler aux amis, pour parler. Là, on a vu que ce soit le livre de Clean, l'éloge des femmes heureuses, ou ce livre-là, les artistes ont-ils vraiment besoin de manger, ou l'histoire de la pénétration, c'est des livres qui suscitent beaucoup de retours, en fait. On reçoit beaucoup d'emails, beaucoup de messages sur les réseaux sociaux, de gens qui nous disent que ces livres manquaient, en fait, que ça les aide. Et, enfin, notre condition d'artiste et d'être humain est quand même dure, et c'est. Plus on subit de pression, et plus c'est dur. Donc je pense que je pense que communément, on a une vision de la littérature en général qui, pour nous, c'est des outils d'émancipation, en fait. On ne croit pas trop à l'art pour l'art. Ça n'empêche que tout ce qui est décoratif, enfin, on peut prendre du plaisir aussi pur à une œuvre d'art, mais il y a quelque chose qui est de l'ordre de... On voit ça comme des objets d'émancipation, et ça part des gens aussi qui cherchent une certaine forme d'émancipation, je pense. En tout cas, nous, dans nos parcours de lecteurs, des livres ont compté, ils nous ont sauvé la vie, et on veut aussi reproduire ça, je crois, c'est ça l'idée.
Du coup, tu peux... Vas-y.
Tu parlais justement de ce livre impubliable, l'idée, je trouve, assez marrante, et justement, est-ce que tu ne penses pas que c'est quelque chose qui, en tant qu'en train de changer, je sais que pareil, je fais de la BD, dans ce cas, et mine de rien, j'ai toujours été genre un truc de hyper vénère de toute façon, je ferai toujours ce que je veux, il est hors de question que je fasse n'importe quelle espèce de compte de. Je ne sais pas ce qu'on dit, quoi. Bon, j'ai même tendance à faire mal. Et donc, je pareil, je t'ai publié, je faisais des festivals, etc. Donc, c'est une construction bien de 4 ans. Et tu vois, de plus en plus, des gens, des éditeurs, alors, pas des énormes, mais sont intéressés par ça. Et il y a vraiment de. Je sais qu'il y a plein d'automatiques cool, de choses comme ça. Maintenant, j'arrive. Et à l'époque, rien que le fait de les suggérer, vraiment, c'était. Enfin, j'ai pas de réponse au mec. Et maintenant, genre, même chez des derniers que je vais publier, c'est ça, c'est quand même un assez gros éditeur que je suis vraiment arrivé en disant, ben voilà, c'est une sorcière qui a un pénis, c'est juste comme ça, je cherchais pas. Et ils m'ont fait, ok. J'ai fait, par contre, ça démontre vraiment, c'est vraiment une BD assez vénère sur, et très critique sur justement sur la manière dont on marginalise et qu'on a envie de voir des artistes parfaits qui répondent à tout ça, comme ça. Et vraiment, on fait ouais, ok, et c'est très marrant, c'est que du coup, j'avais fait genre une couverture et un titre un peu machin, et même on fait non, mais limite, sois le plus vénère que tu veux, genre, c'est pas du tout, et du coup, j'ai un peu l'impression, est-ce que la finalité de ce truc-là, c'est de dire, bah, c'est cool, tout simplement, on influe un peu le mainstream, ou est-ce que c'est de dire, bah, peut-être qu'un jour même, on n'aura plus, entre guillemets, besoin de faire des trucs, des petites éditions comme tu peux faire, voilà, parce que finalement, à un moment, ça sera plus accepté, est-ce que le but, c'est un peu comme l'élection du cœur, est-ce que le but, c'est que ça n'existe plus, ouais. Au final, ouais. Est-ce que tu feras toujours ça quand il arrive.
Ah ouais, mais nous, notre but, clairement, c'est de disparaître. Non, mais c'est vrai. Mais non, mais t'as raison, c'est en train de vachement changer. Moi, je vois, il y a quelques années, j'avais écrit un roman pour adolescents avec une ado qui devenait végétarienne, qui a fusé partout. Et tout. Aujourd'hui, je pense que je le publierai sans problème. C'est comme le mot féministe que j'ai mis dans un roman ado, mais qui a fusé il y a quelques années. Aujourd'hui, je pense que je pourrais l'écrire. Donc non, ça évolue bah, grâce à tous les gens qui essaient de faire bouger les lignes. Donc... Ensuite, là, je vois, par exemple, l'histoire de la pénétration, au départ, on cherchait un éditeur de poche pour sortir, qu'il soit sorti rapidement et pas cher et tout ça. On était refusé par tous les éditeurs de poche. Alors que c'est, tu vois, c'est la micro-édition et tout ça, et c'est vendu à 2500 exemplaires. Ça devrait intéresser, en fait, même pour les documents capitalistes, un éditeur de poche. Et donc, non, il n'a pas été facile, ça n'a pas été difficile de trouver un éditeur pour prendre la suite. Il y a toujours des sujets où ça coince. Là, il y a deux articles dernièrement, une par Belinda Callan dans Le Monde, qui se plaignait de la censure, c'est tellement ridicule, de la censure des militants LGBT et antiracistes vis-à-vis d'un certain nombre d'œuvres d'art. Il y a toujours des articles comme ça qui peuvent être publiés. Donc, il y a toujours plein de choses qui coincent et je pense que les personnes qui essaient de faire plus les choses peuvent être toujours attaquées, même par des gens qui s'estiment de gauche. L'article de Linda Callum est vraiment édifiant. Elle compare les militants LGBT et militants antiracistes. Elle parle de camps, bientôt de camps d'internement pour les gens qui. Qui est complètement délirant. Donc ouais, ça change heureusement. Voilà. Mais bon, il y a toujours beaucoup de résistance.
Ouais. Du coup, le succès de Au-delà de la pénétration, il y a le fait qu'on ait besoin d'en parler, et du coup, il y a une demande de ce livre. Il y a aussi ton passage dans le podcast de Victor Toyon, ouais. Qui a fait exploser les choses.
Bon, au départ, ce livre, on l'a tiré à 200 exemplaires. Parce qu'on s'est dit manifestement ça va intéresser personne. Et donc il a commencé un peu à se vendre. Ensuite il y a Victor Toyon qui m'a invité à son podcast, effectivement, les ventes ont grimpé en flèche. J'ai vu aussi la grosse influence aussi d'Instagram. J'ai découvert ça, c'était très impressionnant. Il y a plusieurs comptes Instagram qui ont défendu le livre, et il y a un compte qui s'appelait Jouissance Club, et c'était la personne en charge de Jouissance Club, et le soir même, c'était fou. Donc, ouais, on a eu beaucoup de relais. Le bouche à oreille a bien marché, il y a des libraires aussi qui ont commandé le livre en grosse quantité. Donc, ouais, j'ai l'impression que ce livre arrivait à un bon moment, et il parlait d'un sujet dont on ne parlait jamais, c'est-à-dire que c'est un livre qui parle de deux choses, même si on a tendance à parler que d'un des aspects du livre, mais il parle conjointement du fait que la pénétration dans les rapports hétérosexuels, dans un rapport avec une femme, n'est pas forcément obligatoire, qu'il y a plein de choses possibles, et que la pénétration des hommes hétérosexuels est aussi possible. Voilà, ça parle de deux choses.
Ouais, du coup, ce livre qui avait été refusé à la base, vous avez dû le redonner à Attila ?
Ouais, on va à Attila, mais avec joie, parce que l'éditeur est super, parce que ça m'a permis de retravailler un peu le texte, de faire quelques petits ajouts, de corriger des choses. Donc, le livre sera moins cher en plus, parce que lui, il tire. Là, il a tiré à plusieurs milliers d'exemplaires, et ça coûte beaucoup moins cher d'imprimer à plusieurs milliers d'exemplaires que d'imprimer à 200 exemplaires. Donc le livre coûtera 10 euros à la place de 12 euros. Il sera trouvable dans toutes les librairies de France. Et il sera très bien fait aussi, très beau et tout. Donc non, c'est joyeux. Ils ont ils travaillent avec des attachés de presse. Moi, certainement, là, je suis invité à Clermont-Ferrand. On va faire une soirée de lancement à Paris et tout ça. Donc je suis absolument ravi que ça suscite. On va faire on a une rencontre croisée avec une auteure lilloise, d'ailleurs, qui s'appelle Amandine Day. À Nantes, parce qu'elle sort un livre sur la sexualité là, en janvier. Et j'aurai une rencontre aussi avec Maya Mazorette en janvier au Montanaire. Donc, ouais, non, mais c'est super. Ça va susciter des débats, des questions. Et tout d'un coup, c'est un des livres. Enfin, pour ce livre, j'ai reçu beaucoup de messages déchirants, en fait, de femmes, de jeunes femmes, de moins jeunes femmes et tout ça. Et même d'hommes aussi, qui tout d'un coup se livrent, enlevaient un poids, parce que ça leur montrait que les questionnements qu'ils pouvaient avoir, des difficultés, n'étaient pas du tout. Enfin, c'était possible d'en parler, qu'ils n'étaient pas fous, que ce n'était pas anormal. Donc, voilà, moi je suis très content de tout ça.
Et le rapport au duo, en fait, vous êtes deux avec Corinne Pierret. En quoi c'est important de faire les choses à deux, en même temps, j'ai l'impression que le travail d'écriture, c'est un travail qui est quand même un peu plus solitaire. Qu'est-ce qui se joue entre les deux ?
Tout à l'heure, vous parliez du collectif pour Pignatas, et je me dis, oh mon Dieu, mais quelle chance d'être toute une bande comme ça, et c'est un peu ce qui nous manque. Alors, nous, on n'est pas trop sociable et tout ça, on essaie de prendre des cours là, en ligne pour devenir plus sociable, mais c'est compliqué. C'est catastrophe. Et donc, nous, on aimerait beaucoup arriver à ça un jour, c'est un peu notre objectif, qu'on soit un collectif. Là, il y a une petite qui nous a contacté, qui veut bien faire la mise en page et tout ça, gratuitement. En fait, on va la payer parce que maintenant, on a un peu d'argent. Et ensuite, Colline et moi, on s'entend bien dans l'ensemble, on a un enfant, et on est des partenaires intellectuels, artistiques et amoureux. Ça marche comme ça pour nous. Et donc, l'écriture, pour nous, n'est jamais très solitaire parce que. Moi, je relis les textes de Colline, Colline relit mes textes. Donc, c'est toujours. Ça me semble important de casser cette image de l'artiste solitaire et qui serait comme une île. D'ailleurs, à la fin du livre, il y a toujours des pages de remerciements qui font 15 pages, parce qu'on n'est jamais seul, en fait. Et tout le livre est influencé par d'autres types, des discussions, par d'autres gens. Et Colline est ma partenaire amoureuse et intellectuelle. Donc, pour nous, c'est assez naturel. Enfin, de travailler ensemble, et on avait ce désir de faire des livres qui n'existent pas. Parce qu'on est censé être un pays, c'est quand même une démocratie, tout ça, mais on sent qu'il y a plein de sujets qui ont du mal à sortir, et même dans des maisons d'édition soi-disant de gauche. Donc c'est à nous de ne pas attendre que les choses se fassent, c'est à nous de prendre les choses en main. Aujourd'hui, on peut très facilement, en fait, s'il y a des éditeurs en ligne. Enfin, on peut très facilement monter sa maison d'édition associative et s'occuper de tout ça. Alors nous, on est deux, on a de la chance. En plus, Colline est beaucoup plus forte en technique, c'est la geek du couple. Donc on se complète bien. Voilà, c'est un bon équipe, ça marche bien comme ça.
On voudrait revenir au tout début et te demander un peu quelle est ton histoire avec l'écriture et quelle est ta première expérience d'édition.
Bon, alors, l'histoire avec l'écriture, c'est comme tout le monde, hein, j'aimais bien lire, tout ça, donc j'ai écrit. Et ouais, ben, ça a été très laborieux, c'est pour ça que je me sens bien que c'était un de l'échec. Moi, j'étais pas très bon à l'école, j'avais que l'échec était là. Mais j'ai toujours tout mis, toute mon énergie dans l'écriture. Parce que moi, c'est avec ça que je voulais me sauver, c'était abstrait. Hein. Je ne pense pas un jour vivre mes droits d'auteur, mais je me suis dit, j'ai pas d'autre voie de salut, en fait. C'est là où je suis heureux, c'est ce que je veux faire, c'est là où je sens qu'il y a des choses à faire pour moi. Et donc, c'était une décision de désespoir pour moi, l'écriture, et de plaisir, hein. Mais j'avais pas d'autre voie de salut. Et donc, j'ai commencé à écrire, voilà, j'envoie des manuscrits. Mais c'était refusé. Donc voilà, j'ai mis 5 ans avant d'être publié, 7 ans peut-être plutôt. Et il a fallu 3-4 romans avant d'avoir un roman qui soit publié. Et par une petite maison d'édition indépendante et tout ça. Donc tout ça a été très laborieux, très difficile. Et ça a été ouais, des années un peu désespérantes, d'échecs. J'ai eu des collections comme ça, de lettres, de refus et tout ça. C'est ce que je dis à un moment, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on serait bien accueilli en fait, surtout si on porte des choses qui sont là pour troubler, pour mettre un peu le bazar. Évidemment qu'on ne va pas être bien accueilli. Donc ça, il faut s'imposer par ce qu'on est, c'est-à-dire la détermination, par le fait d'être très buté en fait, je pense. C'est les trucs qui nous restent, notre sale caractère et notre désir de ne pas nous laisser nous rabaisser, de ne pas accepter des noms des institutions éditoriales. Donc voilà, et au final, coup de chance, coup de hasard, mélange un peu tout ça, j'ai été publié par une petite maison d'édition indépendante. Et peu à peu, j'ai continué à faire ce que je voulais faire. J'écris toujours des livres pour la jeunesse, j'ai écrit un livre sous pseudonyme aussi, un livre d'horreur. Et j'essaie de faire de la littérature, du livre, à la fois mon champ de bataille et mon espace de jeu. Voilà.
Et moi, ce qui m'intéresse un peu, tu viens de parler de plusieurs années de galère à essayer de se faire publier. On ne parle pas souvent de ces moments-là où il ne se passe rien. Et alors, tu as quelque chose à dire là-dessus sur ce vide qui est hyper important.
Ouais, c'est tellement dur, mon Dieu. Je pense souvent à John Kennedy Toole, c'est cet auteur américain qui a écrit La Conjuration des imbéciles et qui s'est suicidé, je ne sais pas, il avait peut-être même pas 30 ans, dans son livre est un chef-d'œuvre. Je veux dire, il y a plein de bons livres, il y a plein de disques en fait qui n'ont jamais été publiés, il y a plein de grands peintres qui n'ont jamais été exposés alors qu'ils les méritaient. Et puis c'est un monde violent, injuste et dégueulasse, mais dans lequel il y a des alliés, dans lequel il y a un peu voilà, il y a des interstices, il y a des choses à faire, il y a des. C'est un monde très. Très dur. Alors moi, je vivais dans le sud de Paris, j'avais aucun contact, j'étais super naïve, je faisais des trousses avec des poinçonneuses là, dans mes feuilles et je les reliais avec du fil. Enfin, tout ça était super artisanal. D'ailleurs, c'est un des trucs qui avait frappé l'éditeur qui m'a publié, qui vient d'un milieu populaire, qui me disait ouais, non, c'est. Je me suis dit que tu ne devais pas avoir beaucoup de fric pour relier toi-même les manuscrits, ou qu'ils avaient remarqué à cause de ça. Et non, ça a été. Aujourd'hui, je pourrais avoir tendance un peu à enjoliver, à romantiser ces années un peu où j'étais étudiant, j'avais un job à côté et tout ça. Et au final, je n'ai pas été plus universitaire, mais voilà, j'étais inscrit à la fac. Et je pourrais avoir un peu tendance à romantiser, mais c'était violent. C'était violent Ouais, tous ces refus, être tout seul. J'avais mon meilleur ami qui lisait mes textes, c'était, voilà, c'était l'allié. Et en même temps, c'était formateur, c'est-à-dire c'était des années de... où je passais mon temps à écrire, à avoir des refus. Voilà, je terminais un livre, j'envoyais par la poste, je commençais à écrire un autre livre, avant même d'avoir les retours des éditeurs. C'était dans un peu dans une logique très guerrière dans ma tête. Il fallait absolument que je m'en sorte, que je fasse quelque chose, parce que je n'avais pas de plan B. J'étais pas bon en fait à l'école, donc peut-être aussi ça qui m'a sauvé. J'ai des potes qui sont aujourd'hui avocats, qui ont très bien réussi leurs études et tout ça. Et je pense qu'ils regrettent d'une certaine manière de ne pas avoir étudié. J'ai un pote qui est juriste, qui était un musicien accompli et génial, qui je pense qu'il s'est comme c'était un bon élève par ailleurs, il est venu, il a essayé de trouver la musique, et je pense qu'il regrette d'une certaine manière. Enfin voilà, En plus, c'était l'époque avant les réseaux sociaux, c'est peut-être un peu différent aujourd'hui. Mais moi, d'habiter, tout ça était un peu. Enfin, j'ai pas mal. Mais enfin voilà, c'était pas très sympa. C'était pas très sympa à vivre. Surtout qu'on voit que le milieu littéraire, c'est un milieu qui est super gentrifié et où le milieu social d'origine coule vachement. Par exemple, j'ai découvert aussi que le fait d'avoir fait telle ou telle étude, ça compte, le réseau compte beaucoup. Ça ne devrait pas, c'est comme le milieu artistique, c'est comme en musique, c'est comme en plein milieu. Mais par exemple, il y a pas mal d'écrivains qui font Sciences Po, qui font Normal Sup, qui ont un doctorat en lettres, je ne sais pas trop quoi. Et en fait, à quel point en fait, ces études, mais c'est très utile, mais c'est super, je ne dis pas du tout les gens qui font des études, mais ça valide aux yeux des gens qui peuvent décider d'un parcours. Ça valide comme écrivain, comme artiste, et ça ne devrait pas. Et la France a du mal, je pense, à faire de la place et à prendre en considération les gens qui ont un parcours atypique et des gens qui n'ont pas de diplôme ou qui viennent de milieu pas du tout intellectuel. Et c'est le milieu artistique et littéraire est très fermé socialement.
Et oui, je voulais aussi rebondir sur un passage, il me semble que c'est dans le manuel où tu dis que tu parles pas du fait que tu écris aux autres, parce que tu as super peur de même d'avouer que tu es en train d'écrire, parce que ce que je pense, c'est que si ça n'aboutit pas, en fait, ça sera encore pire. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup ça aussi avec les projets en cours qui n'aboutissent pas, c'est que on a pas forcément envie d'en parler, et en même temps, si on en parle, ça fait que ça existe et que du coup on est obligé d'assumer jusqu'au bout si ça échoue.
Je n'ai pas vraiment de politique arrêtée sur cette question. C'est vrai que je ne parle pas des livres sur lesquels je suis en train d'écrire parce que je suis super lent pour écrire, donc ça fait 2 ans que je dis que je suis en train de terminer un livre pour ado que je n'ai pas tout à fait terminé encore. Donc oui, non, c'est compliqué, mais je parle volontiers des livres qui sont en cours qu'on va faire avec mon photographe fait par d'autres gens. Parce que là, moi, ça ne m'engage pas trop. Voilà. Et rester en tout cas à l'écoute, parce que le livre sur la mise en ligne, le livre sur le lubrifiant, ça va être des sacrés claques, je pense. Voilà.
C'est quand même un poids social, je dirais, à porter quand tu échoues, enfin en tout cas quand tu estimes que tu as échoué aussi.
En même temps, l'échec est tellement... Moi, la plupart des livres que j'ai publiés chez les éditeurs, c'est des livres qui n'ont pas trop marché. Donc l'échec fait tellement partie de notre quotidien. C'est plus le succès, tout d'un coup, le livre qui se remarque qui est. Et il y a échec et échec, parce qu'il y a des livres qui ne marchent pas du tout, mais on peut recevoir plein de bisous par les sociaux. Il y a quelque chose de mieux. Même dans un livre qui est un échec commercial, il y a plein de choses. Pour moi, aucun livre est un échec, parce que chaque livre est le lieu d'un investissement et d'une tentative de résolution existentielle. Moi, il se passe quelque chose à chaque livre, donc ça peut jamais vraiment être un échec, donc ça ne me dérange pas d'en parler. En fait, la difficulté, c'est pas d'en parler, c'est de trouver des interlocuteurs pour en parler. Et les interlocuteurs sont rares, c'est-à-dire que comment dire les choses de manière non polémique, mais le niveau de la critique littéraire en France est extrêmement faible. confiant que ça passera aussi par là plus que par les journalistes littéraires, les critiques littéraires, alors que ça devrait être leur boulot en fait. Parce que au-delà de la pénétration, c'est un livre d'écrivain. Moi, je ne suis pas du tout un spécialiste de la sexualité, je ne suis pas du tout. Donc, je ne vois pas pourquoi les critiques littéraires ne s'emparent pas de ces livres-là pour les analyser en tant que critiques littéraires. Mais je suis sûr que sur la mise en ligne, sur les lubrifiants, la critique littéraire va faire les films de bouche, ce n'est pas du sujet très noble. Et c'est un problème. Voilà. Je ne suis pas sûr qu'il y ait l'équivalent, il y a plus peut-être pourquoi tu ne passes pas à la télé, je ne sais pas trop, aux émissions littéraires de la télé. Ah, on ne voit pas à la télé, tout ça. Dans l'émission La Grande Librairie, là. Je ne sais pas s'il y a trop l'équivalent. Comme on ne connaît pas grand monde avec Colline, c'est pas trop question. Mais ouais, j'imagine pour les musiciens, ça doit être un peu énervant ce truc.
Après, les musiciens, il y a aussi comme s'il y avait une sortie de secours d'aller vers l'industrie de la musique. Est-ce que dans l'édition, dans le livre, il y a des autoroutes comme ça?
L'industrie règne aussi, en fait, dans l'édition. Et je ne suis pas contre l'industrie, pas parce que j'adore l'industrie, hein, mais. Parce que l'industrie est là, je fais avec les moyens du bord pour survivre, et j'ai pu remarquer que parfois il y a des éditeurs en fait, au sein de l'industrie qui sont plus ouverts et plus subversifs que des éditeurs indépendants finalement. Et ça peut peut-être exister aussi dans la musique, peut-être que dans, je ne sais pas, parfois des éditeurs, parce que des parcours de vie professionnelle super compliqués, je pense à une éditrice à un moment qui était chez Robert Laffont. Et j'ai fait un livre d'horreur sous pseudo, j'ai fait un livre sur le véganisme aussi. Et alors qu'à côté de ça, je connais des éditeurs indépendants et soi-disant de gauche, en fait, qui sont hyper réactionnaires, pas du tout du côté des auteurs. Donc, moi, je veux bien. Dans l'absolu, je suis contre. Contre l'industrie, mais sauf que, comme je suis contre l'argent, bien sûr, mais sauf que on ne peut pas être tout à fait contre à part en étant riche et rentier, en fait. C'est un luxe. C'est peut-être différent évidemment, j'aimerais qu'il n'y ait plus d'industrie culturelle. Je suis contre la concentration des maisons d'édition. Bien sûr, mais comme la concentration des maisons discursives, je pense qu'il faudrait que ça disparaisse. En attendant, je fais avec ce paysage qu'on m'a donné, j'essaie de me débrouiller avec ça. Je fais parfois des livres avec des grosses maisons d'édition, et parfois, je fais un album de jeunesse avec Gallimard, un gros groupe d'édition méchant, mais avec une super éditrice avec qui j'ai travaillé et tout. Et à côté de ça, on fait nos petits livres, tirés de son exemplaire. Parfois, on bosse avec des maisons indépendantes aussi. Voilà, on essaye de se débrouiller, et c'est important, je crois, en tant qu'artiste, de défendre le fait que c'est pas noble, en fait, que nos vies sont pas pures, parce que, en fait, la pureté, c'est un privilège de classe. C'est-à-dire, les gens qui peuvent dire « Ah non, mais moi, je ne travaille pas pour l'argent. Ah non, mais moi, en fait, c'est un truc de bourgeois. Et c'est un truc de personnes qui n'ont pas d'enfants à nourrir, de loyer à payer et tout ça. Donc, on peut faire, c'est ce qu'on a l'objet ici, mais je pense que ça passerait très mal si j'ai un problème, mais on peut faire de très belles choses en fait pour de l'argent. Non, c'est très bien. Non, mais dans l'histoire, il suffit de regarder l'histoire de la musique par exemple. Lisez la biographie de, lisez n'importe quelle, mais tu peux être payé un truc et faire un morceau du tonnerre. En fait. Nos motivations sont un mélange de pureté, d'impureté, de désir de reconnaissance, de plein de trucs. C'est important de défendre noble et qu'on n'est pas du tout pur. En fait. Bon, ça ne veut pas dire qu'on soit des gens complètement artistes et sans morale, c'est pas ça du tout. Hein, mais voilà, mais c'est complexe en fait, la position de l'artiste. Et que souvent la critique en fait de l'argent, c'est passion, de l'art et de l'argent, tout ça, c'est un privilège de bourgeois, de professeurs d'université. Voilà, c'est un privilège de ceux qui n'ont pas de problème d'argent.
Après, la complexité de la réussite, je ne sais pas, c'est beaucoup penser tout ça à mon père qui était syndrome d'Asperger et qui n'arrivait juste pas à s'exprimer, qui était vraiment dans une solitude incroyable et qui a échoué d'année en année. Et ça, c'est même pas une question d'être bourgeois ou d'être dans une autre classe sociale, c'est juste d'être dans une communication qui est tellement autre. Que même la question de la réussite, enfin, c'est réussir à rester vivant plus que tout, réussir à. Enfin, je sais pas, je me perds, mais il y a quelque chose qui va au-delà dans les thèmes de la réussite et de l'échouement, qui va vraiment au-delà de tout ce que c'est de vivre. C'est juste qu'on est tous des humains qui essaient d'être là dans cette communication, et comme on a certains qui ont tellement de mal à être dans cette communication qui est plutôt normale, ça crée quand même des solitudes qui sont encore beaucoup plus épouvantables que de réussir à publier ou ne pas publier, parce que ça va jusqu'à réussir à vivre ou ne pas vivre.
Oui, oui. Ah, non, mais oui, bien sûr. Je connais un peu ça, mon père était psychotique, donc je vois très bien de quoi vous voulez parler, évidemment. Donc, oui, bien sûr, ça existe. Donc, c'est bien de le rappeler.
Peut-être
qu'il y a une
question derrière.
Ouais,
c'est la question qui était juste avant, en fait. C'est quoi qui fait que finalement, en écrivant un livre après l'autre, en n'ayant pas ce plan B sur lequel peut-être aussi se reposer, ben c'est quoi qui fait que tu as senti que tu as pu continuer à échouer et quelque part, dans l'échouement, réussir?
Comment est-ce que je peux réussir à continuer?
Qu'est-ce qui fait
de l'échouer?
Non, comment
t'as réussi à continuer? À échouer? Non, c'est une question. Plutôt que tout d'un coup m'enfoncer et ben justement peut-être parce que c'est une question très complexe. Hein, je pense que l'histoire fait bien justement parce que j'avais un père qui était psychotique et qui s'enfonçait justement. Je pense que c'est lié, c'est une question super intime, c'est lié à une histoire familiale, je pense, qui fait à un moment la détermination d'un enfant. Donc, je pense que c'est lié à une histoire familiale.
Et dans tout ça, est-ce que tu parles de gens qui ne sont pas du côté des éditeurs, mais alors qui sont les alliés dans l'histoire?
Y a des éditeurs quand même. Hein, ah, okay. C'est les lectrices et les lecteurs. C'est principalement pour nous, pour notre art, c'est ça. Mais aussi pour Colline et moi aussi. C'est aussi, par exemple, Colline en écrit pas mal en littérature jeunesse. Il y a pas mal de professeurs, par exemple, qui nous font signe, qui nous invitent. Et ça fait choquer. On n'a pas tous professeurs perdus dans la scolarité, et tout d'un coup, là, on n'est contacté que par des professeurs passionnés qui ont une haute image de leur boulot, qui adorent les gamins, et ça fait tellement du bien en fait d'être confronté. qui je travaille veulent démissionner de l'éducation nationale. Pas parce qu'ils travaillent avec moi, mais parce que en fait, l'institution est très dure justement à l'égard des profs qui tentent des choses différentes. Voilà, les lecteurs, les lectrices, des profs, des gens aussi qui. Des gens qui nous savent. Là, on est plutôt en train aussi habité dans des bibliothèques, il y a des bibliothèques formidables. Il y a une partie des bibliothécaires qui ont une vision très patrimoniale de leur boulot, enfin, d'archives, mais il y a aussi des bibliothécaires qui estiment qu'il faut parler et défendre les auteurs et les autrices vivants et vivantes. Donc, on peut compter sur eux. Non, on a plein d'avenir, même au sein de l'institution, même au sein de. On a des alliés un peu partout et ça fait un bien fou. Alors, malheureusement, évidemment, les alliés ne sont pas du tout la majorité, ce ne sont pas celles et ceux qui ont plus de pouvoir, mais on se salue dans la nuit quand on s'envoie des signes de lumière et ça fait chaud au cœur. C'est important.
Merci, Martin. On te retrouve après la pause à 16h30 pour la table ronde. Donc gardez vos questions si vous en avez encore en tête. On va inviter Samira et Belinda à nous rejoindre. Vous pouvez l'applaudir.